Carnet de campagne, bonjour. Comme les jours précédents, nous allons mettre en valeur une entreprise qui participe à la finale du concours Startup et Citoyenneté dans le cadre des Journées Nationales de la Citoyenneté qui se tiennent aujourd'hui et demain à Rennes. En l'occurrence, la candidate mise en valeur est Diariata Ndiaye, qui a imaginé une application simple et très efficace d'aide aux femmes victimes de violences sous le nom de App Elle. C'est écrit A2P, trait d'union L au pluriel. Cette jeune créatrice à la tête de l'association Résonante fait l'objet d'un portrait rédigé par notre confrère Laurent Jibowski dans les pages numériques de La Vie. Vous allez trouver un lien à nos pages d'émission. Ensuite, nous ouvrirons une dernière page justement consacrée aux initiatives de la Marne avec Céline Coudreau, chargée de mission à la Maison de l'architecture de Champagne-Ardenne pour des universités d'été uniques en France.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Diariata Ndiaye. Bonjour.
Bonjour.
J'essaie de m'appliquer pour bien prononcer votre nom.
J'ai senti la concentration.
Ouais. Je regarde, Diariata, votre fiche signalétique. Alors, c'est une fiche portrait. Artiste, slameuse, créatrice de l'application App Elle et membre du comité scientifique No-Gynophobie. Vous êtes surtout la fondatrice de l'association Résonante et vous faites partie des finalistes du concours Vivre Ensemble dans le cadre des Assises Nationales du Vivre Ensemble à Rennes, 19-20 janvier. Résonante, il faut entendre quoi par ce nom ?
Alors, Résonante, c'est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. On a décidé de cibler les 15-30 ans. Alors, le choix du nom de Résonante, c'est que c'est une cause qui résonne en nous, qui résonne en chacun. Et l'idée, c'est de se dire qu'on peut faire réseau et lutter tous ensemble contre les violences faites aux femmes.
Pourquoi les 15-25 ans, Diariata ?
Alors, moi, je suis artiste slameuse et je sensibilise ce public-là en particulier depuis une dizaine d'années. C'est un public qui est victime de violences, qui n'y connaît pas grand-chose. Et c'est surtout que c'est un public qui, lorsqu'il est confronté aux violences, ne sait pas du tout vers qui se tourner et qui se sent très, très seul.
De ces violences faites aux femmes, on en parle beaucoup depuis quelques mois. Et on a l'impression qu'il y a eu un tel phénomène d'amplification, tant mieux, mais que ces violences étaient le fait d'un certain milieu élitiste.
Non, pas du tout. On sait que les violences, c'est partout, c'est toutes les catégories sociales, ça concerne vraiment tout le monde. On parle souvent de la libération de la parole des victimes, mais c'est pas une libération, c'est que les gens sont désormais prêts à les entendre et à les écouter et à les croire. Donc ça, c'est vraiment une grande avancée. Mais ça n'empêche pas que il y a encore tout à faire. Et on pense que c'est grâce à l'éducation et grâce à l'information et à la sensibilisation qu'on arrivera à faire reculer ces violences.
Ouais. Alors, créer des outils de prévention, il y en a un, c'est l'application que vous lancez. Vous l'avez lancée, mise en ligne en octobre 2015. Actuellement, il y a une campagne de financement participatif pour un bracelet d'alerte connecté à l'application. Alors, cette application App Elle permet, dans le cas d'une agression, d'entrer en contact tout de suite avec un service.
Alors, elle permet plusieurs choses. Généralement, les victimes de violences se sentent un peu seules et ne savent pas très bien à qui s'adresser. On sait que les victimes de violences n'appellent pas les secours.
Bah, en pleine agression, vous allez prendre votre téléphone, appeler les secours. Alors, vous imaginez, c'est aberrant.
Un des constats, c'est que les victimes préfèrent se diriger vers des personnes de confiance plutôt que vers la police. Ensuite, il existe énormément d'associations et de structures qui accompagnent les victimes qui sont totalement méconnues du grand public. Et la troisième chose, c'est cette méconnaissance autour des violences. Il y a énormément de personnes qui sont victimes de violences qui ne savent pas définir les violences qu'elles subissent. Et puis, il y a aussi toutes ces conséquences qu'elles ont sur la santé, sur l'état psychique. Et donc, l'idée, c'était de, dans une seule application, centraliser toutes ces informations et permettre l'accès, que ça soit au secours, aux proches et à l'information. Donc, vous parlez de la touche alertée. Donc, cette touche permet à la victime de contacter trois personnes de confiance. Une fois que cette touche est enclenchée, les trois personnes de confiance entendent en direct ce qu'il se passe et ont accès à la position GPS de la personne. Donc, elles peuvent prendre l'initiative d'appeler les secours et dire « il se passe telle chose à tel endroit » ou se déplacer ou tenter de rappeler la victime. Et cette alerte est enregistrée. C'est-à-dire que si plus tard la victime décide de porter plainte, elle aura accès à ces données, elle pourra s'en servir. Alors, on a différents modes de déclenchement de cette alerte. On en a 7 différents. Et parmi ces 7 moyens, il y a un bracelet connecté. Pour nous, c'est le moyen le plus simple, le plus discret, le plus efficace pour déclencher cette alerte. Un appui long et ça enclenche l'alerte.
Vous préparez en parallèle beaucoup de choses. Alors, il y a un spectacle mot pour mot, les mots MOTS pour les mots MAUX.
Alors ça, c'est un spectacle qui a été joué près de 200 fois déjà, plus de 20 000 jeunes sensibilisés. Et c'est bien parce qu'on joue ce spectacle et qu'on sensibilise par le biais de l'art qu'on arrive à favoriser l'émergence de cette parole et qu'on s'est retrouvé avec énormément de témoignages de jeunes victimes de violences. Et donc, on s'est dit qu'il fallait créer aussi bien des outils qui leur permettent d'accéder à l'information et d'appeler à l'aide en cas de besoin.
Et l'application est valable partout en France?
Oui, tout à fait. Sur l'ensemble du territoire européen.
Ou même sur l'ensemble du territoire européen.
C'est ça.
Et c'est drôlement bien. Alors, je ne sais pas qui sera le lauréat de cette finale, mais je trouve que tout le monde mérite d'être finaliste. Et peu importe si vous ne gagnez pas le prix, le plaisir de vous entendre et de connaître l'application que vous mettez en service et puis votre association Résonante. Le site, c'est association.résonante. Ça s'écrit comme la ville de Nantes, résonante.fr. Et puis l'application, c'est A2P, trait d'union L au pluriel, .fr. Et puis vous aurez le lien avec la campagne de financement participatif. Belle vie à vous, Diariata.
Merci bien.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
Pour clore la liste des 10 finalistes du concours Startup et Citoyenneté, il ne manque plus que CityBay, un écosystème web pour les collectivités selon la présentation de ce service. Cette société créée à La Rochelle souhaitait apporter des outils de communication performants aux collectivités locales, en particulier celles qui ont pour souci de transmettre leurs informations directement à leurs administrés sans perdre de temps et avec le plus d'efficacité possible. Pour devenir une ville ou une commune connectée, CityBay propose 4 applications différentes mais complémentaires. CityWeb pour diffuser les informations communales, CityApps pour répondre aux questions de mobilité, CityFamily pour les services destinés aux familles, par exemple gérer plus facilement les activités des enfants, les inscrire à la cantine scolaire, à la garderie ou à l'accueil de loisirs, et City Contact pour échanger avec les citoyens. L'organisation du système web s'élabore avec la commune qui choisit les fonctions qu'elle désire mettre en œuvre, comme un portail des associations, un forum inspiré de la démocratie participative ou des itinéraires dans le patrimoine local. La petite commune de Villedoux, un peu plus de 2000 habitants, justement, dont loin de La Rochelle, a adopté déjà ce système qu'elle propose aux habitants en site internet et en application smartphone. On y trouve aussi bien les services d'aide à la petite enfance que le profil des entreprises qui s'installent dans son territoire. Un avantage supplémentaire avec ce système, c'est que la commune réduit sa consommation de papier et réalise donc quelques économies non négligeables en ces temps de baisse des dotations de fonctionnement. Le site, c'est www.citybay.fr. Je le répète à chaque fois, mais vous trouvez toutes ces adresses parce que vous nous demandez assez régulièrement mais où est-ce qu'on peut trouver les liens. Vous allez sur franceinter.fr à la page d'émission Carnet de campagne et également à la page Facebook Carnet de campagne pour avoir les liens du jour. Céline Coudreau, bonjour.
Bonjour.
Céline, chargée de mission à la Maison de l'architecture de Champagne-Ardenne, Châlons-Champagne. Première question, Céline, on l'évoque de temps en temps, Maison de l'architecture sert à quoi?
Alors, Maison de l'architecture, déjà, c'est une association loi 1901, et son but, c'est de sensibiliser le public, enfant comme plus grand, à l'architecture, et en particulier l'architecture contemporaine.
Oui. Vous associez cette architecture contemporaine et cette recherche à une tradition, et en particulier une tradition liée à la viticulture.
Oui, dans le cadre d'un événement qui s'appelle Architecture et Champagne, cette sensibilisation prend une forme assez particulière et exceptionnelle sur le territoire. Et on associe donc en effet l'architecture et la viticulture, qui sont les deux éléments fondateurs de notre maison d'architecture dans son territoire, puisque la viticulture et le champagne en particulier est très présent dans le territoire de Champagne-Ardenne.
Qu'est-ce qu'on appelle les loges de vigne?
Alors, les loges de vigne sont des sortes de petites cabanes ou de petites constructions qui existent depuis très longtemps et qui ont été un petit peu abandonnées au début du siècle et qui servaient aux vignerons pour s'abriter, pour rester plusieurs jours sur leur terrain, pour faire tous les travaux des vignes. et sans repartir à chaque fois chez eux, c'était quelquefois un petit peu loin.
Alors c'est pour réhabiliter ces loges des vignes que vous avez organisées l'année dernière, la première université d'été en architecture ?
Pas forcément dans le premier but de réhabiliter les loges anciennes, mais en effet de réinventer cette notion de loge de vigne. C'était justement de proposer à des étudiants en architecture et des participants autres d'ailleurs de travailler sur ce concept de loge de vigne qui aujourd'hui pourrait prendre d'autres significations que juste un abri. Et donc voilà, ça fait partie du programme des universités. C'est aussi de définir avec les vignerons un nouveau programme et une nouvelle utilité à ces constructions qui ponctuent le paysage champenois.
J'ai cru comprendre que la manifestation était internationale. Donc l'année dernière, vous avez eu des étudiants en architecture provenant d'autres pays. On parle quelle langue entre vignerons et étudiants ?
Alors, ça a été essentiellement le français, mais aussi beaucoup l'anglais. L'an dernier, donc, sur les 33 participants, on a eu des participants d'Autriche, du Liban, de Belgique, de Pologne. On espère cette année, pour la deuxième édition, avoir encore plus de diversité de nationalités. Et c'est pas seulement des étudiants, ça peut être aussi des professionnels plus ou moins jeunes qui sont intéressés pour participer à ces chantiers un peu collaboratifs. Et pas seulement en architecture, ça peut être l'architecture, mais plein d'autres domaines, comme l'œnologie, la viticulture, bien sûr, mais aussi le tourisme, le design, le marketing, le bâtiment, des artisans, des apprentis, ou un ingénieur structure ou génie civil. Enfin, l'idée, c'est vraiment de faire des équipes collaboratives et avec des méthodes pédagogiques assez innovantes.
Oui, alors justement, à propos d'innovation, Céline, en quoi les loges de vignes qui ont été construites l'été dernier, à l'occasion des premières universités d'été en architecture, sont-elles innovantes et modernes ?
Alors, le fait d'être construite lors d'une université d'été, c'était un temps très court, 10-11 jours. Et sur ces quelques jours, les étudiants devaient à la fois rencontrer et échanger avec le vigneron, assimiler le terrain sur lequel la loge allait venir. Et puis après, concevoir un projet répondant au programme et aux volontés du vigneron. Puis, une fois conçu et présenté devant le vigneron et le public présent, le construire de ses propres mains dans un atelier à Châlons-Champagne et l'installer in situ le dernier jour sur le territoire. Mmh. Et tout ça par équipe de 4 ou 5 par loge à peu près.
Alors, la prochaine université d'été architecture et champagne qui aura lieu du 19 au 30 juillet va porter à nouveau sur les loges, mais avec plus d'étudiants présents.
Voilà, on espère une cinquantaine d'étudiants cette année. Donc il y aura entre 8 et 10 loges construites à nouveau cette année. Le thème de la loge de vigne sera gardé pendant quelques années afin de constituer un parcours touristique dans la Champagne ardenne. Après, le thème des loges va évoluer sûrement puisque la rencontre entre l'architecture et le champagne peut prendre plein de formes différentes.
Et vous allez ouvrir une maison des loges ?
Alors, il y a eu une maison des loges qui a été construite l'an dernier qui a permis d'être un support de communication dans la ville de Châlons. Et c'est le point central de départ, par exemple, pour les touristes, pour découvrir ce projet et après aller voir les loges sur place.
Les loges de vigne nouvelle génération, vous appelez loges de vigne 3.0. Tout cela est organisé avec la communauté d'agglomération de Châlons-Champagne et l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy, ainsi que la maison de l'architecture, donc de Champagne-Ardenne, avec Céline. Le site, c'est architectureetchampagne.fr si vous voulez avoir toutes les informations pour être prêt cet été, puisque les parcours seront ouverts évidemment, et les chantiers seront ouverts au grand public, comme on l'a dit. Merci Céline.
Merci aussi. Au revoir.
La semaine prochaine, rendez-vous dans le département de la Seine-et-Marne. Nous traverserons une partie de la Bretagne, ensuite Finistère, Côte d'Armor, je le rappelle. Et puis nous continuons à collecter les bonnes nouvelles du côté du Maine-et-Loire, du Loir-et-Cher. Et ensuite, je vous l'annonce avec un peu d'avance, nous serons dans le Var, le Gard, puis l'Hérault. Merci à Al Niro qui réalisait les carnets et Lisa Mchin, qui leur donnait du sens aux techniciens et siennes de France Inter, comme aujourd'hui Clément Vuillet, qui leur donnait du son. Nicolas Stoufflet, assisté de Yann Pailleret. C'est le jeu des 1000 euros dans la Marne à Ambonnet.